Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde. La question que nous posons aujourd'hui, mytho réalité, peut-on se former au BIM et à l'Open BIM? On a décidé de prendre en fait le point de vue de différents acteurs. On a le point de vue de l'entreprise, on a le point de vue des OF, on a le point de vue d'un jeune diplômé. On a demandé à un jeune diplômé s'il pensait qu'il s'était correctement formé au BIM. Et on a demandé à quelqu'un de servir de grand témoin. Sylvie, qui travaille dans qui a co-construit d'ailleurs un cabinet d'accompagnement à la conduite du changement pour faciliter l'accès au BIM, qui travaille à la fois en tant que praticienne du BIM, en tant que formatrice et accessoirement qui connaît très très bien le système des compétences attachées au BIM. Je vais proposer qu'on fasse en 2 minutes, chacun se présente. Olivier, si c'est possible.
Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Giraudino, moi je travaille dans une ETI donc basée à Nantes qui s'appelle ETPO, Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest, qui fait du bâtiment et des travaux publics. Et moi plus particulièrement, je viens des travaux, j'ai une culture d'ingénieur travaux. Et du coup, aujourd'hui, je dirige une cellule méthode, et ingénierie numérique qui est tournée vers l'adoption de la maquette dans les différents services de l'entreprise. J'expliquerai plus avant tout à l'heure, évidemment.
Merci. Nicolas.
Bonjour, donc je suis Nicolas Savoas, économiste de la construction pour le cabinet Savoas, qui est l'entreprise fondée par mon père. Donc je suis ici avec vous pour vous parler de ma formation et notamment comment j'ai été formé sur le BIM. Donc, j'ai un master en génie civil, ingénierie numérique et collaborative pour la construction. Voilà, et puis actuellement je suis en CDI depuis un an.
Merci. Patrick.
Patrick Pézino, ingénieur formation au 3CABTP. Donc je suis heureux d'être à côté d'un jeune et d'une entreprise, puisque le rôle du 3CABTP, c'est accompagner justement la montée en compétences des jeunes et des entreprises dans le cadre d'une mission de pilotage de la montée en compétences de tous les organismes de formation en apprentissage, donc tous les OFA et des sites. Aujourd'hui, le 3CABTP, c'est 380 OFA. Et c'est à peu près 900 sites où on accueille des apprentis et on aimerait qu'ils aient tous la qualité de ce jeune homme.
Bonjour et merci Emmanuel pour cette invitation. Donc moi c'est Sylvie Le Chauve et je représente le bureau d'études SINS. Alors SINS c'est un bureau d'études qui a un double positionnement. On travaille sur des études prospectives et sur l'évolution des métiers et l'impact des transitions numériques et environnementales sur les métiers. On fait également des missions d'accompagnement sur la conduite du changement. Et on a un troisième volet qui est l'assistance à maîtrise d'ouvrage BIM. On a vraiment cette spécificité sectorielle et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui.
Merci.
Alors donc Sophie Rosol, donc je suis en charge du volet compétences chez Building Smart France et donc principalement en charge donc du développement du label formation Open BIM. Quelques mots peut-être sur Building Smart France. Donc, il s'agit d'une association à but non lucratif, donc créée en 89, donc avec une ancienneté et une culture BIM acquise depuis de nombreuses années maintenant. Et donc on a pour but d'accompagner justement la transformation numérique de la construction. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc Building Smart France est le chapitre français de Building Smart International, et ce depuis sa création en 1996. Voilà.
Merci. Bon, je vais prendre. Donc quand on parle de formation, le premier destinataire de nos jeunes diplômés, c'est l'entreprise. Et donc je vais m'adresser à Olivier. Pour vous, quels sont les freins au développement du BIM dans les entreprises?
Alors merci pour la question, oui. Alors les freins, j'aime pas trop parler de freins, parce que je trouve que l'expérience aujourd'hui du numérique et de la maquette numérique, c'est passionnant. Mais c'est vrai qu'il y a des freins, effectivement. Et du coup, chez nous, chez ETPO, l'idée, ça a été au démarrage de lancer une équipe de recherche et développement spécifiquement sur le sujet, complètement détachée de la production, et de se dire comme ça, voilà, on va essayer d'aller creuser différents sujets. On ne se donne pas de limites. On regarde du côté de la réalité augmentée. On regarde du côté des process internes. Et qu'est-ce que peut changer la maquette numérique au niveau de nos process internes? Alors au début, on se dit, tiens, c'est simplement un nouveau logiciel. Et puis petit à petit, on découvre les conteneurs de données, on découvre tout l'enjeu du système numérique à mettre en place. Et là, du coup, il y a des, il y a des freins énormes qui se mettent en place, puisqu'en fait, on a tous et toutes des bonnes vieilles habitudes de travail. Et donc, du coup, il faut trouver des leviers pour essayer d'accompagner ce changement, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de lourd, et ce n'est pas simplement l'adoption d'un nouveau logiciel.
Donc, pour vous, quels seraient les axes de développement de formation? Une formation un peu idyllique, voilà, le mythe, la formation parfaite.
Alors, la formation parfaite, pour moi, ce serait quelqu'un qui aurait déjà une formation métier, c'est-à-dire qui aurait 3, 4, 5 années d'expérience, et qui, du coup, en travaillant sur la maquette numérique, bah, pourrait en fait transférer tout son savoir vers la maquette numérique. Il y a une autre solution, éventuellement, qu'on éprouve régulièrement, c'est faire des genres de binômes, c'est-à-dire d'accueillir des jeunes qui, eux, connaissent parfaitement les nouveaux équipements et la modélisation, il ne faut pas se cacher, et le management de la donnée. Et puis, du coup, d'accompagner avec quelqu'un d'un peu plus ancien qui, lui, va mettre le doigt sur des enjeux importants de respect de normes et puis surtout le travail collaboratif, parce que l'enjeu est là, c'est de comprendre que la principale difficulté, en fait, c'est de comprendre que le métier des autres vient interférer avec mon métier. Et ça, c'est une prise de conscience qui est vraiment fondamentale.
Donc, si je vous entends bien, l'intérêt de faire monter les jeunes en compétences, c'est surtout de supporter les vieux.
C'est un petit peu ça. Je suis bien placé pour en parler.
Je me considère dans la vie aussi, hein, je vous rassure. Donc, la question, en fait, de l'élément déclencheur, pour vous, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait cette transition dans une entreprise, et quels sont les éléments déclencheurs de cette transition?
Alors, pour nous, si je prends l'exemple, ça date un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a eu un rapport d'Elcambre en 2014-2015 là, qui a été un peu l'élément déclencheur, parce qu'il était très bien structuré et il expliquait très bien les enjeux de l'avènement du numérique. Ensuite, je pense que dans toute entreprise, il y a des services. Je vois, par exemple, dans une entreprise de construction, il y a le service méthode, il y a les travaux, il y a la synthèse, il y a les DOE numériques. Eh bien, en fait, il faut identifier ces phases-là, te dire qu'est-ce que la maquette numérique vient changer ces métiers-là. Et du coup, là, ça devient passionnant, parce qu'on a à la fois la notion de dessin et de modélisation, mais on a surtout la notion de management de la donnée. Et ça, c'est passionnant.
Merci. Donc, si des entreprises ont des besoins, les centres de formation, les organismes de formation, comment vous répondez à ces besoins?
Alors déjà, il faut savoir que tous les OFA, hein, organismes de formation en apprentissage, travaillent avec les entreprises, puisque les apprentis sont déjà des salariés des entreprises. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans une stratégie de formation, et avec les trois pôles que tout le monde connaît, l'entreprise, l'apprenti et le CFA. Donc là, on est vraiment dans une démarche collaborative, c'est-à-dire que là aussi, on apprend petit à petit, même si ça fait quelques années qu'on exerce dans cette matière-là, on réapprend à travailler ensemble avec des outils bien sûr numériques, mais des rencontres aussi réelles avec les entreprises et avec les apprentis. Et on est vraiment dans cette démarche-là, c'est-à-dire que quand vous parliez de choses exceptionnelles, je pense que déjà dans certains CFA, et aussi par la labellisation, on confirme le travail qui a déjà été entrepris depuis à peu près 2011 avec le 3CABTP qui accompagne tous les organismes de formation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette démarche où on utilise des outils support du BIM, les fameux logiciels qui ne sont que des outils support du processus BIM, mais avec les formateurs, avec les équipes de direction des OFA, on travaille justement sur le travail collaboratif. On a fait une expérience il y a quelques années lors d'un BIM World, un travail collaboratif sur 6 CFA répartis sur toute la France avec des apprentis de tous les niveaux et de tous les métiers différents. Et ça a smatché, comme on dit. C'est-à-dire que les jeunes ont travaillé de manière collaborative, à distance, et ont fait en sorte que l'expérience dont vous parlez a marché. C'est-à-dire qu'il y avait tous les métiers, et vous l'avez bien dit, les interactions entre les métiers, et les outils n'ont été que le support de cette communication. Il faut savoir que le BIM, on dit le BIM, c'est une évolution depuis 60 ans, et on a écrit ça avec Emmanuel Natchez sur un petit livre du CNAM. Et on est vraiment dans une démarche qui date, Hein, travail collaboratif lors des constructions des cathédrales, l'information elle était juste à côté, les gens dormaient ensemble, ils dormaient sur les chantiers, donc quand j'avais besoin d'une information, c'était pas très difficile, je tapais sur l'épaule de celui qui avait l'information et je lui demandais. Aujourd'hui, ben, les entrepreneurs, je sais pas si ça vous intéresse de dormir sur les chantiers, a priori non, hein, vu sa tête, je pense non, et je vous comprends, ben, aujourd'hui on peut travailler de manière collaborative et à distance. On a l'expérience, hein, on doit des fois travailler à distance, mais par contre, ce qui est important, c'est l'information au bon moment, au bon endroit, pour la bonne personne. C'est ce que permettent les outils.
C'est souvent compliqué de se repérer dans les titres pro, les RNCP, les choses comme ça. Comment les organismes vous faites pour adapter entre la compétence qui est déclarée dans un titre, le besoin de l'entreprise et les référentiels de formation? Quels sont vos outils qui permettent de vous maintenir à jour, en fait?
Alors, très honnêtement, je suis très heureux de participer au groupe GT Compétences de Building Smart France, parce que jusqu'à présent, tout le monde disait qu'il faisait de l'open BIM, tout le monde disait qu'il faisait du BIM, et parfois, ce BIM, c'était simplement vous utiliser un logiciel support du BIM, mais sans même communiquer, sans même discuter avec les personnes, sans même échanger. C'est-à-dire que vraiment, j'étais tout seul avec mon logiciel et je disais, je vous forme au BIM. C'est pas du tout ça, je pense que vous l'avez compris. C'est vraiment un processus collaboratif. L'outil n'est que le support. Le label qu'ont obtenu pas mal de nos OFA, hein, il y a 6 OFA qui ont participé, qui ont été bêta-testeurs et qui ont obtenu, je dirais, à haut la main le label. Certains, je parlerai de Grand Est, qui sont aujourd'hui à peu près à 70 formations labellisées. Et je vais dans le sens de l'entreprise. Ce sont des formations labellisées qui vont du CAP jusqu'au BTS, voire au diplôme d'ingénieur, et qui sont des labellisations de métiers comme BP charpente, BP maçon, CAP charpente, ce qu'on appelle installateur sanitaire et thermique. Donc les métiers du BTP, où on apprend le geste, et ça reste quelque chose d'essentiel, mais aussi où on apprend à collaborer, parce qu'au final, le BIM, il faut qu'on le comprenne tous, ça touche à la fois les cols blancs, mais ceux qui font du BIM avaient des bottes. Le BIM ne se détache pas, c'est tous les intervenants de l'acte de construire qui doivent collaborer, coopérer, afin qu'un jour, ce support numérique soit vraiment le support. Alors on parle de jumeaux numériques, mais on parle aussi de gain de temps, gain en productivité, vous l'avez dit. Hein, et puis surtout, le client, il faut que le client soit satisfait. Alors bien sûr que nous, on travaille pour les entreprises et pour les apprenants, mais on travaille aussi pour la branche du bâtiment et des travaux publics. C'est le rôle du 3CABTP et on le fait en collaboration avec des personnes qui s'engagent dans ce qu'on appelle l'open BIM.
Merci Patrick. Donc en synthèse, ça touche tous les niveaux. On n'est pas forcément ingénieur, on peut faire des BTS, des CAP, tous les niveaux sont là.
Oui, je crois que la grosse erreur que l'on fait, c'est de croire que ça va commencer obligatoirement par les architectes. Il y a certaines écoles d'architecture qui n'ont pas commencé parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le moment. Je pense que le 3CABTP est là pour que la branche bâtiment et travaux publics ne soit pas surprise. Il nous pousse et nous, on déploie depuis 2011 et ça marche. Ça marche avec des jeunes qui amènent la compétence au sein même des entreprises.
Eh ben, on va passer la parole aux jeunes. Voilà, passe le micro. Donc Nicolas, oui. Jeune diplômé,
c'est
économiste
ça.
De la construction.
C'est ça.
Le BIM, c'est quoi pour vous?
Bon, le BIM, c'est tellement complet et... À la fois, c'est toute une approche en fait qui est basée sur la collaboration, comme vous l'aviez dit précédemment. Et justement, pour répondre à la question, le BIM, ce serait une équipe interopérable qui agit dans un même but commun, qui est de mener à bien le projet et qui permet cette mission tout en gagnant du temps, en évitant les aléas de chantier, enfin les problématiques qu'on rencontre encore actuellement. Voilà.
Alors, je vais être provoquant. En fait, le BIM, vous l'avez appris exclusivement quand vous êtes sorti de l'école, on est d'accord?
Non.
Ah, ça me rassure.
Pas tout à fait. En fait, moi, du coup, pour vous parler de mon parcours, donc, j'ai eu plusieurs initiations au BIM durant mon BTS études et économie de la construction. Puis ensuite, c'est un domaine qui m'a tout de suite intéressé, donc je me suis directement orienté vers une licence professionnelle études économie de la construction et management de projet BIM du CNAM, dispensée par le CFA Saint-Lambert. Et puis, toujours dans cette thématique, j'ai réalisé mon master et je dirais que beaucoup de points ont été très intéressants, notamment, en fait, pour faire du BIM, selon moi, il faut comprendre et comprendre l'approche du BIM, comprendre ses bases, comment s'intégrer dans une équipe interopérable, la maîtrise des logiciels qui n'est qu'un support. Et justement, une fois qu'on a ces bases-là, on peut approfondir certains points du BIM pour son usage et son besoin spécifique. Mais,
Donc en fait, on pourrait dire que vous êtes BIM natif. Vous n'avez pas eu de déformation comme nous, les anciens. C'est quoi votre quotidien BIM? Vous faites de la BIM 2D, 3D, 4D, 5D?
Donc, en réalité, moi, comme je vous ai dit, donc, je suis plutôt partie économie de la construction. Je suis économiste. Donc, ce serait plus du BIM 5D. En fait, dans mon entreprise, je développe certains processus pour les estimations des bâtiments. On récupère la maquette de l'architecte sous le format IFC, puis on extrait ces quantités, on fait l'estimation directement. Voilà.
D'accord. Alors, maintenant que vous êtes un jeune diplômé, vous êtes diplômé, qu'est-ce qui manquait dans votre formation avec le recul que vous avez? En quoi les formations devraient un peu évoluer?
Justement, j'aurais tendance à dire en trois points, enfin, décomposer ma réponse en trois points. Donc déjà, le premier, ce serait parfois des formateurs qui... quelle que soit la matière, hein, que ce soit du thermique, du structure, qui a appris le BIM de manière théorique et ne l'a jamais réellement utilisé dans un cadre professionnel. Et forcément, son approche du BIM présente des limites dans un cas réel, contrairement à des intervenants qui ont une approche du BIM, selon moi, plus pertinente. Ensuite, le deuxième point, ce serait... là, c'est un problème un peu plus profond, mais ce serait... comme il n'y a pas de réel standard officiel, qu'il y a encore des flous juridiques, etc., et que c'est la loi du général, enfin de la propriété intellectuelle, qui n'est pas forcément adaptée par rapport au BIM, à cette démarche collaborative. Du coup, les entreprises peuvent faire un peu des modèles et des chartes BIM comme bon leur semble. Il n'y a pas de standard officiel. Et par conséquent, ça se répercute également sur les formations. Et le troisième point, rapidement. Juste pour faire rapidement. Ce serait le manque d'approfondissement, donc ça c'est un point qui m'est plutôt propre, le manque d'approfondissement de certains modules BIM pour son usage professionnel. C'est-à-dire qu'une formation va montrer tous les aspects du BIM, comme je l'ai dit, le BIM c'est très général et ça peut être très vaste et on peut approfondir beaucoup de points. Et parfois on aimerait que certains points soient approfondis, mais on n'a pas la main dessus sur ces formations, et ça a été d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai décidé de suspendre mon Master 2, puisqu'en fait, trop peu de modules étaient tournés vers le BIM 5D, donc pour mon besoin. D'un point de vue groupe, donc ça je peux l'entendre et je peux le comprendre, et c'est tout à fait normal que c'est bien, ça permet de voir beaucoup de points, mais pour un usage individuel, ça peut présenter ses limites comme moi. Voilà.
D'accord. Tout à l'heure, j'ai demandé à l'entreprise comment ça fonctionne avec un binôme. Non, je repasse après le micro, mais comment ça fonctionne? Et la réponse est, en fait, l'idéal, c'est un binôme. Alors, je vais poser la question aux jeunes. Est-ce que comment ça fonctionne l'intégration en entreprise pour un jeune qui maîtrise du BIM? Comment ça se marche? Et après, justement, Olivier fera réagir.
Ça aussi, c'est assez complexe. En fait, moi, j'ai pu voir donc durant. Mes trois années d'alternance sur le BIM, sur le BIM, qu'en réalité, il y a deux cas de figure. Il y a le profil de l'étudiant qui intègre une structure qui a déjà un pôle BIM, un référent BIM, et dans ce cas-là, son évolution est réellement propice, en fait, dans l'environnement BIM. Il est cadré, il est supervisé, ça lui permet de voir l'approche qu'a l'entreprise vis-à-vis du BIM. Et puis, il y a le cas de l'étudiant qui intègre une structure qui n'a aucun pôle BIM, qui n'est pas supervisé. Et forcément, sa mission, c'est d'être en charge de son développement. Donc, ça nécessite une forte charge de travail, on va dire, accumulée avec les études, qui peut forcément mettre une pression sur l'alternant. Et d'ailleurs, parfois, ces entreprises, ça, je préfère aussi le préciser, parce que, bon, j'ai été côté étudiant, mais parfois l'entreprise n'a même pas conscience, je parle du deuxième cas de figure, n'a même pas réellement conscience de ce qu'est réellement une approche BIM et comment faire son développement. Et Tout simplement, l'entreprise voit que le retour sur investissement, mais peut-être trop rapidement par rapport au temps que ça nécessite de faire cette transition numérique. Donc, je dirais aux entreprises de devoir se former, de comprendre l'approche BIM et surtout de la comprendre pour avoir une prise de conscience sur comment et où orienter son développement pour cette transition.
Merci. Donc, effectivement, Olivier, un petit commentaire parce que c'est assez intéressant. La vision est croisée. Finalement, vous connaissiez pas avant, hein, mais c'est un peu la même, même approche.
Ce qui est très difficile, c'est de comprendre l'avènement de la maquette numérique. Mais je pense que plus généralement, pour le monde de la construction, que ce soit dès la phase amont, moi je travaille avec, donc on a une entité promotion immobilière, mais je dirais que dès le démarrage, dès la phase faisabilité, on commence déjà à imaginer le projet en maquette numérique, puis dans ses différents développements. Donc il y a un vrai effort d'appropriation par toute la profession qui fait qu'à un moment donné, ce qui est compliqué à comprendre, c'est ce phénomène de collaboration qui fait que, encore une fois, le métier des autres vient interagir avec mon métier. Et ça, c'est fondamental. Et c'est un vrai changement.
Alors, ce qui est intéressant, du coup, je me permets un tout petit commentaire, parce que je l'ai fait au téléphone avec tout le monde. C'est un peu la blague du jour en ce moment. C'est effectivement, ma génération connaît TikTok. On a compris la méthodologie, on a compris plein de choses, mais on n'est pas très, très doué pour s'en servir au quotidien, tous les jours. Alors que nos enfants, enfin ma fille en l'occurrence qui a 14 ans, elle n'a pas forcément compris ce qui tourne derrière, mais elle comprend bien l'usage. Et c'est un peu le message là qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les jeunes apportent la compréhension d'un système nouveau et les anciens apportent leur sagesse, si on peut le dire comme ça. On va passer la parole à Sophie. Sophie, donc, qui représente Building Smart France. Ah oui, j'ai volé le micro, désolé. Donc Sophie représente Building Smart France. Elle est en charge du développement label et certification. Alors, première question, c'est quoi Building Smart France? Tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais je voudrais que tu rentres plus dans les détails. À quoi sert ce principe compétence?
Alors, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, en tant qu'association donc, qui accompagne les professionnels dans leur démarche BIM au quotidien, on se devait aussi, nous, de les accompagner sur le pan des compétences. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, les membres de l'association ont notamment constaté qu'il y avait donc, une explosion des offres de formation en BIM. Notamment, donc, il est difficile aujourd'hui pour les professionnels en poste donc, qui souhaitent monter en compétences, mais aussi pour les étudiants recrutés demain, donc, de s'y retrouver et d'identifier notamment une formation en BIM de qualité. Et donc, dans ce cadre-là, au niveau de l'association, donc, qui représente vraiment tous les acteurs de la construction dans ce développement de l'Open BIM, on a créé donc, un référentiel commun et partageable pour justement faciliter la compréhension des offres de formation. Et donc dans ce cadre-là, donc on a créé donc le label formation Open BIM. Ce label a pour but de permettre à tous les acteurs de la construction, quel que soit leur niveau de formation, de pouvoir justement identifier une formation en BIM de qualité. Voilà. Au niveau de la certification, déjà au niveau du référentiel donc commun et partageable, ça c'est vraiment important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ce qu'il fallait aussi, je voulais mettre aussi en avant la certification professionnelle BIM internationale, donc qui elle, comme pour le label, s'adresse à, a été construite via un référentiel aussi commun et partageable. Donc ça, c'est vraiment important. Donc cette certification, on a créé un premier niveau de certification. Premier niveau de certification qui s'adresse donc, à tous les acteurs de la construction qui souhaitent faire reconnaître leurs compétences individuelles en BIM autour de la compréhension justement de l'Open BIM et de l'utilisation correcte des normes dans la construction. C'est vraiment le but de cette certification. Aujourd'hui, cette certification, 23 pays la proposent. Et donc, au niveau de la France, Building Smart France, donc, qui est le chapitre français de Building Smart International, on a choisi, nous ne sommes pas organisme de formation et on ne cherche pas non plus, on n'est pas organisme certificateur, mais le but, c'est de pouvoir faire en sorte que tous les acteurs de la construction puissent également disposer de cette certification. Voilà. Donc,
Merci. Ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est que Building Smart France ne se substitue pas aux organismes ni de formation ni de certification. Donc c'est bien un référentiel qui est partagé au niveau international sur lequel les organismes de formation peuvent se référer et donc participer à la démarche en demandant via l'intermédiaire de Sophie la certification
ou
le label.
C'est ça. Alors le label formation OpenBIM, donc il s'adresse vraiment aux formations. Nous, en fait, ce qui se passe, c'est que le but de ce label, c'était vraiment de pouvoir faire en sorte que tous les acteurs puissent s'y retrouver et identifier une formation en BIM de qualité, mais en fonction de leur niveau de formation. C'est vraiment ça l'important. C'est tous les acteurs puissent s'y retrouver et identifier une formation en fonction de leurs besoins à eux. C'est vraiment ça le plus important.
Et donc ça s'adresse à qui ? C'est tout type de formation professionnelle, formation tout au long de la vie, formation initiale ?
C'est ça, on s'adresse vraiment à tout niveau de formation, tout type de format. Le label s'adresse à tout niveau de formation, à tout type de format. C'est vraiment encore une fois, le but, c'est de pouvoir accompagner les acteurs de la construction et qu'ils puissent s'y retrouver et identifier vraiment une formation qui leur correspond et qui réponde à leurs besoins.
Alors, je suis organisme de formation, je veux rentrer dans ce process. Je trouve où ce référentiel, en fait ?
Si vous souhaitez être organisme de formation labellisé, vous pouvez aller sur notre site internet. Enfin, voilà, le but, c'est de prendre directement contact avec moi et qu'on puisse échanger ensemble. Je pense que ce que tu voulais dire, c'est à qui s'adressent le label et la certification. Le label et la certification s'adressent finalement à tous les acteurs de la construction qui souhaitent se former en BIM en s'appuyant sur une vision processus du BIM et pas seulement outils. C'est vraiment l'important. Ce qu'il faut savoir aussi, le but de ce label et de cette certification, c'est également de permettre un affichage clair pour la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et les entreprises. Toujours basé sur un référentiel commun et partagé. On parle bien tous de la même chose au niveau du BIM et de l'Open BIM. Autre point important aussi, le label et la certification, le but de ce label et de cette certification, c'est permettre aussi de faciliter la vérification des compétences des personnes formées. Et enfin, quand je parle de compétences, c'est les compétences savoir, savoir-faire, c'est vraiment important. Et surtout, le label et la certification, le but en tout cas, c'est de rassurer aussi les entreprises et les donneurs d'ordre, car le collaborateur finalement a suivi une formation transparente, aussi bien dans son contenu, mais surtout aussi qui répond à des standards internationalement reconnus. Voilà.
Donc on n'est pas tout seul en France en fait.
Exactement, exactement. C'est notamment au niveau de la certification, c'est aussi un référentiel conçu de manière conjointe entre tous les acteurs de la construction.
Donc si je comprends bien, moi je cherche une formation en allant sur le site, je vois les formations qui sont référencées.
Labellisées. Dans le cadre du label, mais également les organismes accrédités.
Voilà.
Dans le cadre de la certification.
Donc en fait, c'est une sorte de base d'information partagée et ouverte à tout le monde.
Exactement, exactement. Vraiment, je vous invite, pour les acteurs de la construction qui recherchent justement une formation Open BIM, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site internet de Building Smart France où vous retrouverez justement toutes les formations labellisées, quel que soit leur niveau. Vous retrouverez vraiment du CFA au master spécialisé, et sur tout type de format, c'est-à-dire sur 2 jours, mais également des formations plus longues sur plus de 350 heures.
Merci. Donc là, on a eu 4 points de vue. L'entreprise, l'OF, même si tu n'es plus OF réellement, le 3CABTP, je sais, j'ai compris la leçon, mais vous les accompagnez. Un jeune diplômé, on a donc Building Smart France. Alors Sylvie, est-ce que d'abord tu peux te présenter un peu plus en détail ? Parce qu'effectivement, tu as un panel d'activités assez large autour du BIM, au sens très très généraliste. Donc je voudrais que tu reprécises un peu tes activités. Et après, je te poserai quelques questions de synthèse sur ce qui a été dit.
Ça marche. Alors, en effet, nous, au niveau de l'activité, on travaille sur l'ensemble de la filière de la formation, mais également de la filière de la construction. C'est-à-dire qu'on va travailler auprès de chacun des acteurs, depuis la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la gestion exploitation maintenance pour la partie construction. Et concernant la partie formation, on va travailler très en amont notamment auprès des observatoires métiers, pour travailler sur les évolutions métiers. Donc on va définir les nouveaux métiers et on a créé il y a 3 ans de ça maintenant les référentiels métiers du BIM Manager, BIM Coordinateur, BIM Modeler. Donc on a défini ce cadre qui sert aujourd'hui de référentiel pour les branches et également pour les organismes de formation. Donc ça c'est un premier travail qui a été fait pour bien délimiter ces métiers-là. Et on a travaillé de manière un peu plus transversale sur l'intégration des compétences attendues pour l'ensemble des métiers de l'ingénierie qui sont touchés et concernés par la filière construction. Donc pour ça, en fait, on a défini un ensemble de compétences techniques, donc cœur de métier, en lien avec le BIM, mais également et surtout, et c'est là-dessus où je voulais vraiment insister aujourd'hui, on a défini des compétences organisationnelles et comportementales qui nous semblent vraiment fondamentales pour mettre en place le processus BIM et favoriser le décloisonnement des métiers, ce que disait tout à l'heure Olivier, qui est vraiment un point et un sujet sensible. Et quand on rédige ces référentiels métiers, on est au contact des entreprises, donc on va récolter les besoins auprès des entreprises qui recrutent ces profils-là. Et on s'aperçoit que de plus en plus, on demande des profils atypiques du type data manager BIM. Donc là, dans les évolutions, la notion de la donnée est aussi centrale et elle constitue vraiment ce continuum entre l'ensemble des acteurs. Et c'est quelque chose qu'il faut bien avoir conscience pour vraiment encourager ce décloisonnement des métiers.
Merci. Donc c'est pour ça que je veux que tu te présentes un peu plus, parce que par rapport à ce qui a été dit entre le point de vue de l'entreprise, les jeunes, les OF, les métiers changent. Donc par rapport à ce qui a été dit, c'est quoi ton retour? Comment tu pourrais synthétiser un petit peu ce besoin? L'entreprise nous dit qu'il faut accompagner les jeunes et en accompagnant les jeunes, on accompagne ceux qui sont déjà qualifiés. Les jeunes nous disent nous, on a du mal à se positionner parce qu'on n'est pas encore expérimenté. Désolé, je le dis comme ça, au niveau métier, mais j'ai déjà beaucoup de savoir et de compétences au niveau. Alors, comment on peut se positionner par rapport à tout ça? Quelle est la bonne démarche?
On assiste un petit peu à un choc culturel transgénérationnel. Un choc culturel aussi au niveau de l'organisation de la filière, des métiers. Donc c'est vrai que ça fait peut-être un peu beaucoup pour l'ensemble des acteurs. Alors il y a le tutorat qui a été évoqué, qui est un très très bon levier. Il y a les formations courtes, les formations longues, à tous les niveaux, on l'a évoqué également. Donc il y a énormément de choses qui ont été mises en place depuis 2014 et franchement tous les acteurs peuvent s'en féliciter. Il y a également un autre levier qui, à mon sens, est à développer, qui est l'AFEST, l'action de formation en situation de travail également, qui manque encore de dynamique et d'outils et de méthodes. Mais en tout cas, sur les évolutions métiers, ce que nous, on remarque, c'est que la notion du cycle de vie du bâtiment doit faire partie des programmes de formation pour justement encourager cette vision d'ensemble sur l'ensemble du projet. Également, apprendre à connaître les métiers de l'autre. Nous, c'est quelque chose qu'on voit avec Polytech, où j'interviens, Polytech à Clermont-Ferrand, dans le cadre du master, où on travaille sur cette connaissance, cette acculturation au BIM, où il faut véritablement s'intéresser aux limites des métiers des uns et des autres, de l'amont et de l'aval. Et ça, à mon sens, ça doit vraiment faire partie des programmes de formation.
Merci. La question qui se pose, parce qu'on a parlé aussi de logiciels, il y a tout un aspect d'investissement qui peut paraître lourd, qui peut paraître compliqué, parce qu'il faut investir dans le personnel, il faut investir dans la compétence, et c'est ça qui coûte le plus cher souvent. Il faut investir dans les logiciels. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qui peut être un frein? Est-ce que c'est un investissement aussi lourd que ça pour une entreprise?
Alors, on ne va pas nier que, en effet, c'est un investissement. Donc, ça peut représenter, selon la taille de l'entreprise, un coût, que ce soit matériel ou humain. Après, au niveau de l'investissement, je pense que, dans la démarche, ce qu'on peut observer, qu'on soit maître d'ouvrage ou entreprise de maîtrise d'œuvre ou entreprise de travaux, souvent on rentre dans le BIM sous l'angle du projet. C'est un premier pas et c'est là qu'on commence à s'interroger, de savoir bon, comment je vais me positionner. Et donc la démarche, souvent, c'est d'aller gratter sur Internet et de trouver justement les premières infos sous l'angle logiciel. Moi, je pense que avant d'en arriver là, il faut déjà s'interroger, de savoir quel est l'état des lieux de mon entreprise. Où sont les compétences? Qui au sein de mon entreprise pourrait porter ce projet? Comment je peux me faire accompagner? Il y a tout un tas d'experts qui sont à disposition et qui sont là vraiment pour accompagner l'humain et non pas le logiciel. Le logiciel est indispensable, on est complètement d'accord, mais il faut également cette dimension relationnelle, humaine, et la mise en place du tutorat, comme on le disait tout à l'heure, avec des experts des fois extérieurs qui vont capitaliser une expérience auprès de l'ensemble des acteurs ou même de d'autres secteurs d'activité. Nous, on travaille également dans le monde de l'industrie où, du coup, on intègre aussi ces bonnes pratiques dans le monde du bâtiment. Et je crois qu'il faut vraiment s'appuyer sur ce réseau d'experts qui est à disposition également.
Quand on a échangé pour préparer cette session, moi, j'ai aimé la remarque, d'abord, il faut partager un agenda. Est-ce que tu peux me réexpliquer ça? Parce que ce n'est pas du BIM, l'agenda, quand même.
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on a un jeune qui arrive dans l'entreprise et qui a son agenda numérique et un plus ancien qui a l'agenda papier, et j'en connais un rayon, forcément, il peut y avoir des clivages. Et le BIM, c'est commencer par vraiment travailler ensemble, partager les tâches. Et donc, c'est pour ça que je faisais cette référence à l'agenda partagé, aux outils de gestion de tâches qui ne sont pas forcément des outils logiciels dont l'investissement est très, très coûteux. C'est simplement des bonnes pratiques collaboratives qui sont les prémices d'un projet qu'on peut mener de manière conjointe et collaborative.
D'accord, donc partageons nos agendas pour trouver des dates, pour faire des rendez-vous, pour faire du
bon entendeur.
Il nous reste un petit peu de temps. L'intérêt de la formation, on vient de l'avoir. L'intérêt de l'intégration dans l'entreprise, on vient de le voir. Mais la question qui se pose, c'est comment ça va évoluer tout ça? Parce qu'effectivement, le rôle du data manager est en train de sortir. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de dire le BIM est mort, vive le BIM d'après? Là, je pose la question ouvertement. Est-ce qu'on n'est pas en train de changer un petit peu de système, aller sur du management de la donnée, et donc c'est de la formation d'intelligence artificielle, d'IoT, tout ça qui va rentrer dedans, ou est-ce qu'on reste pour l'instant d'abord sur les fondamentaux, on assoit le système?
Alors, je garde le micro juste 2 minutes, après je vous le passe. En effet, nous, quand on intervient dans les entreprises, souvent on sent que dès qu'on prononce le mot BIM, ça crée une réaction un peu épidermique, et on essaye de sensibiliser de plus en plus sous la notion du cycle de vie du bâtiment à cette notion de données, de data partagées. Donc le BIM n'est pas mort, le BIM reste un moyen, et notamment, on l'a vu tout à l'heure, enfin ce matin sur la conférence qui a eu lieu à côté, où avec la transition environnementale, le BIM est complètement indispensable. Donc le BIM n'est pas mort, le BIM a de longues années devant lui, et tant mieux.
Ça me rassure.
Oui, ça me rassure aussi. au final, c'est toujours la même question. La RE 2020 va s'imposer aux entreprises, va s'imposer à tous les acteurs de la construction. Et de fait, l'outil qui va permettre de simplifier, entre guillemets, l'information, on l'a déjà. Mais entre nous, l'important, c'est pas dire je fais du BIM, parce qu'on commence à entendre je vais faire du CIM, je vais faire du... etc. On ajoute une lettre, on enlève une lettre, bientôt ça va finir par crime. Donc non. Je crois que le BIM, c'est un processus. Et comme tout processus, parfois on fait du BIM sans le savoir. Hein, on s'envoie des messages, on s'envoie des informations, on remplit des documents Excel, on envoie un document Excel, la personne a l'information au bon moment. Ce n'est pas obligatoirement des supports liés à la maquette 3D avec les informations. En fait, tout le système concourt à collaborer. Vous l'avez dit, ce qui est important pour une entreprise quand elle construit, c'est d'avoir la bonne information au bon moment. Donc au final, ce qui nous importe, c'est le processus. Le terme BIM, s'il impressionne, ben on l'enlève pendant les formations. Parfois, on fait faire des choses à des jeunes. Et puis à la fin, on leur dit que c'était du processus BIM. L'objectif, c'est pas de faire peur. L'objectif, c'est d'avancer ensemble.
C'est d'accompagner.
Oui, bien sûr. Oui, donc pour moi, non, c'est pas mort, sinon j'aurais pas fait mes études là-dessus. Mais non, c'est vrai que pour revenir à le principe de votre question, pour moi, ce serait plutôt le BIM n'a pas réellement changé, c'est juste qu'on a essayé de pousser plus loin et on essaye toujours plus. Donc forcément, il y a, comme j'ai dit dans mes réponses précédentes, c'est que c'est tellement vaste qu'au final, on essaye chacun de tous approfondir à son usage spécifique, mais il ne faut pas perdre de vue cette notion de collaboration et cette approche du BIM permet dans tous les cas d'être plus opérationnel, de gagner en productivité, d'éviter les aléas de chantier, d'avoir une meilleure visibilité du projet, des coûts, de la gestion, exploitation, maintenance. Donc forcément, tous ces points positifs font que le BIM est en pleine évolution. Il n'est pas mort, justement. Enfin, c'est mon point de vue, mais voilà. Je pense que je vais aller... Ouais.
C'est ce que vous voulez...
Je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose.
Oui, bien sûr.
Oui, on est dans un environnement de, on est dans la construction, quoi, dans le milieu de la construction. Donc on s'appuie sur de la 3D. Et qu'est-ce que c'est pratique la 3D ? Mais on sait. Enfin, moi, je suis de la génération où on est déformé, quoi. Finalement, on voit un plan 2D et dans notre tête, il est en 3D et ça, on s'en rend pas compte. Et du coup, après, sur la notion de data management, moi, je voudrais pas que ça vienne. On est aussi dans un métier manuel, quoi, où on est en contact de la matière et du coup, mais tout ce qui est autour de la maquette numérique, ça serait bien que ça arrive au plus près de la production, quoi, parce que les gens en ont besoin et du coup, il n'y a rien de plus frustrant de se retrouver avec une réservation qui n'est pas au bon endroit au moment de mettre un tuyau. C'est terrible parce que tout le monde se regarde et dit mais qu'est-ce qui s'est passé et ça, voilà, c'est... L'objectif de la maquette numérique, je trouve que c'est passionnant, c'est de mettre des gens autour d'un processus et de l'améliorer sans cesse, quoi.
D'accord. Alors, la question se forme au BIM, mythe ou réalité, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un mot de conclusion de chacun d'entre vous ? C'est quoi l'objet ? Mythe, réalité, les deux ?
Sur ?
La question se forme au BIM, mythe ou réalité ? Votre mot de conclusion, c'est quoi se former au BIM, en fait ?
J'ai envie de dire que pour tous les jeunes, c'est simplement indispensable de modéliser et de s'y mettre. C'est vraiment l'outil d'aujourd'hui et de demain. Et puis pour les anciens, alors faut surtout pas lâcher le morceau parce qu'on a énormément à apporter. Parce que les jeunes, devant un logiciel de modélisation, ils savent pas quoi en faire. Et donc, on a beaucoup, beaucoup à apporter au niveau de... Donc, il y a vraiment un enjeu de passation, de génération sur le sujet.
Nicolas, le mot de la, voilà, la conclusion.
Oui, pour moi, ce serait réalité, carrément. Il faut se former, justement, c'est le point de départ. Comprendre l'approche et la démarche BIM, c'est essentiel. Puis ensuite, l'appliquer pour son besoin. Mais savoir être interopérable, s'intégrer dans une équipe, c'est fondamental puisqu'on a tous un même but. Et le BIM le permet très bien. Donc justement, il faut que tout le monde se forme, que les anciens puissent se mettre à niveau, que les jeunes aussi, parce que parfois ça peut arriver, comme vous disiez, dans certaines formations d'architectes qui vont être les architectes de demain, bah, ils n'ont pas de notion du BIM. Et pour moi, je pense que si on veut arriver à un plan BIM, bon, qui n'a pas été trop concluant ces dernières années, mais si on veut arriver dans un plan BIM effectif, effectivement, il faudrait se former et ça passe par comprendre cette approche. Voilà.
Merci Patrick. Ton mot de la fin ?
Très rapidement, pour moi c'est une réalité, hein, on y est dedans, mais c'est le mythe, ça serait de croire que ça ne s'adresse qu'au col blanc. Parce que, comme vous le disiez, il faut que les personnes, c'est pas parce qu'elles ont la maquette 3D qu'à un moment donné, il va pas falloir poser la tablette et poser du carrelage en posant ses genoux par terre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des outils innovants, mais il y aura toujours besoin de cette expertise manuelle. Et cette expertise manuelle ne passe pas sans une expertise intellectuelle. Ne pensez pas que les métiers manuels sont exempts de réflexion. Bien au contraire, ça serait bien mal connaître les métiers de la main, du manuel et du bâtiment.
Merci.
Alors, mythe ou réalité, moi je répondrais nécessité. Et c'est complètement vrai, même si le BIM s'est largement diffusé sous l'angle de l'ingénierie parce que les outils étaient mûrs pour pouvoir cibler ce maillon-là de la filière. Il est aussi utile sur la partie chantier et il est là pour véritablement servir les compétences cœur de métier. Il n'est pas là pour le contraindre. Et un autre élément que je voudrais rajouter, c'est que notre baseline, c'est... de la compétence individuelle à l'intelligence collective, et je crois que le BIM doit véritablement s'inscrire là-dedans. Le BIM, c'est vraiment l'affaire de tous, et c'est en faisant chacun un effort individuellement qu'on y arrivera.
Merci. Sophie.
Oui, donc bien sûr, hein, une réalité, nous on le voit très bien au sein de l'association, avec justement tous les membres de l'association qui sont représentatifs des acteurs de la construction. Et voilà, on le voit très bien avec justement ce que je disais précédemment, cette explosion des offres de formation. On voit que ça se développe énormément et c'est une bonne chose. Maintenant, je pense que voilà, c'est important aussi pour tous ces acteurs de pouvoir identifier encore une fois des formations de qualité, des formations Open BIM, des formations voilà, qui s'appuient vraiment sur une vision processus du BIM et pas seulement outils. Voilà.
Merci. Alors moi, je vais avoir une conclusion un peu différente de la vôtre, mais évidemment, elle est dans votre sens. Mais je vais être un petit peu provocateur. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'on arrive à la même étape qu'on est aujourd'hui avec AutoCAD. C'est-à-dire, c'est le crayon de tout le monde. On ne se pose plus la question, est-ce que tu es formé AutoCAD ? Enfin, c'est devenu complètement illusoire. Tout le monde sait faire, tout le monde sait utiliser Word, Excel, etc., etc., avoir tous les parallèles. Alors moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'on soit dans le mythe, que dans 10 ans, on se donne rendez-vous et qu'on dise, pourquoi tu nous parles de ça ? En fait, ça ne sert à rien, on est tous formés, on sait tous faire, passons à autre chose. Voilà, c'est peut-être ça mon vœu pieux, mythique. Il nous reste un tout petit peu de temps, alors du coup, on a été très très bon. Donc, s'il y a une ou deux questions, allez-y. On n'avait pas prévu de questions, mais comme on a quelques minutes...
Bonjour, oui, j'avais une question pour Patrick. Oui, je me permets, effectivement, je rebondis sur vos paroles pour dire concernant, vous avez dans l'espoir et j'ai l'impression que vous le vivez, des entreprises qui mettent les bottes, qui mettent les gants, qui eux-mêmes font du BIM. Là, je me permets, enfin, j'ai un peu de mal à y croire, enfin, je ne le vis pas actuellement, je subis plutôt ce genre de problème. Je suis plus dans le mythe, effectivement, qu'un plombier ou qu'un petit artisan dans une commune, on lui dise, bah, fais-moi la maquette, là j'attends ta maquette tout de suite. Voilà, ça, actuellement, j'en souffre. Dans 10 ans, peut-être un peu moins, mais voilà.
J'entends, hein, parce qu'on a des toutes petites entreprises dans les organismes de formation. Le 3CABTP était une tête de réseau avec 15 OFA, organismes de formation en alternance, et 77. Aujourd'hui, il est sur 380 OFA et à peu près 900 sites. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une vision qui est peut-être un peu plus large que votre entreprise. Et c'est normal, vous pensez à votre entreprise et c'est tout à votre honneur. Hein, mais dans la démarche, on a accompagné, donc le 3CABTP a accompagné au déploiement du BIM. Et depuis au tout début, quand on a commencé, toutes les entreprises disaient, mais pourquoi vous formez ces jeunes, nos jeunes au processus BIM, il m'a dit qu'il y avait un logiciel BIM. Non, un processus, hein, vous avez déjà entendu ça. Donc on a déjà évolué. Mais pareil, on l'a fait avec les apprenants. Par exemple, on a travaillé avec des logiciels comme Alplan, parce qu'il y avait des partenariats, comme CIP. Et ces logiciels qui étaient support du processus BIM, on avait réussi à faire en sorte que l'apprenti, dans le CFA, apprennent les compétences avec les CFA dont je vous ai parlé. Et ces compétences-là, elles pouvaient les utiliser parce que ces partenaires avaient autorisé les jeunes en formation à utiliser les logiciels dans leur entreprise. Ils sont venus avec à la fois les compétences et à la fois avec le logiciel. Je ne vous dis pas que ça a changé la vie de certaines entreprises. Mais de certaines petites entreprises, je peux vous le dire. Hein, je connais des petites entreprises. Le patron me disait, on est 4 ouvriers. Il faisait ça. Et j'ai fait, mais il est où le quatrième ? Il fait, tu me comptes pas, c'est moi. Hein, le patron était un ouvrier quelque part. Donc c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire que petit à petit, la compétence, on aurait pu attendre que toutes les entreprises soient prêtes. Mais au moment où elles sont prêtes, c'est déjà trop tard. Le rôle du 3CABTP qui porte la politique de branche du bâtiment et des travaux publics, c'est d'à la fois répondre aux besoins immédiats, on continue à lire des plans en papier, mais répondre aussi aux besoins à venir. Et c'est les compétences, c'est ce que vous dites. Et on a de plus en plus de petites entreprises qui soit sous-traitent, on va être très clair, sous-traitent à des personnes qui sont déjà, qui ont même des fois pris des plans d'architectes, qui les ont modélisés eux-mêmes, parce que pour faire du chiffrage, c'est plus rapide, et ils ont revendu aux clients. Ça veut dire que quelque part, ils ont tout compris, hein, les économistes de la construction. Donc on est dans cette démarche-là. Bien sûr, on est toujours confronté à ce problème-là. Mais en réalité, quand les organismes de formation sous couvert du 3CABTP qui les accompagnent et qui les forment, on amène la compétence au sein même des entreprises. Et je vous donne un autre exemple, c'est sur les titres pro, tu parlais des titres pro, sur les calculs thermiques. on a avec CIP donc fait de la formation à Marseille par exemple, et les jeunes ont été embauchés avant même la fin de l'année du titre pro. Pourquoi ? Parce que ben, là aussi il y avait un partenariat. Aujourd'hui on ne fait plus de partenariat, mais c'est une histoire d'humain. Hein, j'ose pas dire d'homme parce qu'il y a, il y a des jeunes femmes ici aussi. Donc on est dans la démarche collaborative et dans du gagnant-gagnant. On entend souvent ça, mais là c'est réel. J'espère avoir répondu à votre question. Mais encore une fois, vous avez raison, préoccupez-vous aussi de la vôtre.
C'est bon. Moi, alors, je vais répondre en 3 secondes à votre question. Vous savez quelle est la seule promesse qu'il faut faire aux gens ? Ce n'est pas de gagner de l'argent, ce n'est pas de gagner en compétences, c'est rien. Ils vont gagner du temps. Et ce temps-là, ils en font ce qu'ils veulent. Ça a été évoqué. Dernière, mais très très rapide.
Oui, bonjour tout le monde. En fait, moi, par rapport à la question que vous avez posée, je pense que le problème ne vient pas au niveau de la formation, mais c'est plus au niveau des déploiements en fait, au sein des entreprises. Oui. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on a parlé en fait, du BIM, on considère que 70% c'est du management, c'est du collaboratif, et 30% du numérique. En fait, ça, déjà, on a difficulté à l'enseigner, à former des élèves en fait, par rapport à ça. Mais la difficulté, c'est au niveau de déploiement. Je vous donne juste un exemple. En fait, moi, je viens de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Je connais une entreprise en fait, de 9 salariés. Son nom, c'est à fond sur le BIM. Ça fait 3 ans. Ils ont investi beaucoup. Et lorsque je pose la question au chef d'entreprise, quel est le point plus négatif ? Il me dit qu'en fait, c'est apparemment en fait, c'est le fait que ça ne suit pas au niveau des autres entreprises. En fait, je pense que c'est la difficulté, c'est au niveau de déploiement. Donc, la formation, en fait, il y a des leviers, mais c'est plus au niveau de déploiement.
C'était l'avis de Nicolas, notre jeune diplômé. Je vous propose de continuer la discussion sur le stand de Building Smart France et ou sur le stand du 3CABTP.